Les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. Le gouvernement du Soudan du Sud, jugé pour une large part responsable de la famine qui sévit dans certaines zones du pays en conflit, où le président Salva Kiir continue de piocher dans la rente pétrolière pour acheter des armes, estime un rapport confidentiel des Nations Unies. Les experts de l'ONU chargés de surveiller les sanctions estiment que 97% des revenus déclarés du Soudan du Sud proviennent des ventes de pétrole et qu'au moins la moitié du budget, et sans doute bien plus, est consacrée à la défense. Les Nations Unies ont déclaré plusieurs zones du pays en état de famine et estiment que près de la moitié de la population souffre de pénurie alimentaire. Après un mois et demi de suspension, les pourparlers de sortie de crise en République démocratique du Congo ont repris hier à Kinshasa sous l'égide de la Conférence épiscopale nationale du Congo. De passage à Washington, Jean-Claude Katende, le président de la ZADO, l'Association africaine des droits de l'homme, pointe du doigt la responsabilité du pouvoir à Kinshasa.
C'est malheureux que la majorité au pouvoir en République démocratique du Congo aujourd'hui bloque la mise en œuvre du dialogue. En 2017, nous pensons que c'est une date irrévocable. Si les politiciens veulent trouver leur combine pour aller au-delà de ce qui est inscrit dans l'accord du 31 décembre, il faut qu'ils se rappellent que la population est très attachée à cet accord. Parce que n'eût été cet accord, je pense qu'on aurait parlé d'autre chose en République démocratique du Congo. Notamment, on aurait parlé d'une révolution en République démocratique du Congo.
Jean-Claude Katende, le président de l'AZADO, l'Association africaine des droits de l'homme en République démocratique du Congo. 33 réfugiés somaliens, dont des femmes et des enfants, ont été tués par des tirs sur leur embarcation en mer Rouge, ont indiqué aujourd'hui des responsables de la ville yéménite de Hodeïda, contrôlée par les rebelles chiites. Les corps des 33 réfugiés ont été transportés dans les hôpitaux de la ville portuaire, où 35 blessés ont été admis, a affirmé un responsable des services de santé en disant ignorer les circonstances de l'attaque. Le bilan de 33 morts a été confirmé par un responsable portuaire. Deux importants groupes armés de la capitale libyenne ont désavoué jeudi un accord de trêve conclu sous l'égide du gouvernement d'Union nationale, GNA, à Tripoli, où des combats ont de nouveau brièvement opposé des factions rivales. Cet accord avait été obtenu après 4 jours de combats ayant paralysé la capitale libyenne sous la coupe de dizaines de milices depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011. Les deux groupes ayant dénoncé l'accord de trêve sont connus pourtant pour leur appui au GNA, le gouvernement reconnu par la communauté internationale, ce qui renforce encore la confusion à Tripoli, en proie à une insécurité chronique. Et puis, la plus haute instance judiciaire d'Afrique du Sud a mis aujourd'hui un terme provisoire à la controverse autour du versement des aides sociales de 17 millions de personnes qui nourrit depuis des semaines le procès en incompétence du gouvernement. La mesure assure le versement menacé d'interruption des aides sociales au-delà du 1er avril. Le paiement des allocations sociales est un facteur de popularité toujours très forte du Congrès national africain, l'ANC, qui dirige le pays depuis la chute officielle de l'apartheid en 1994.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
7h03 à Washington, le président Donald Trump et la chancelière allemande Angela Merkel vont se rencontrer à la Maison-Blanche aujourd'hui pour leur premier face-à-face. L'enjeu est de taille compte tenu des déclarations du candidat Trump l'an dernier sur l'OTAN et les relations transatlantiques. Gabi Dorsil pour les précisions.
Les différences sont évidentes. Donald Trump prône l'Amérique d'abord. Angela Merkel défend le libre-échange. Ils n'ont pas toujours dit du bien l'un de l'autre. On se souvient de cette accusation de Donald Trump durant la campagne électorale.
J'étais autrefois un fan de Merkel. Je croyais qu'elle était un leader fantastique. Je pense maintenant que ce qu'elle a fait à l'Allemagne est une disgrâce.
La chancelière non plus n'a pas été tendre en décrivant le décret de Donald Trump sur l'immigration, par exemple. Aujourd'hui, les deux leaders sont obligés de joindre leurs forces pour faire face aux questions les plus urgentes de l'heure, d'où le nouveau ton conciliant de Mme Merkel.
Je suis profondément convaincu que nous avons intérêt à entretenir un partenariat transatlantique fondé sur des valeurs communes. Et c'est vrai, pas seulement pour les Européens, Mes entretiens avec le président Donald Trump se dérouleront dans cet esprit.
Autant donc s'attendre à un temps de compromis aujourd'hui à la Maison-Blanche sur la viabilité de l'OTAN, par exemple, que Trump a qualifié de surannée, et aussi sur le commerce. Néanmoins, les Européens veulent être pris en bloc, alors que Trump privilégie les accords bilatéraux.
Le dossier de ce journal, le projet de budget publié par la Maison-Blanche, montre une augmentation de l'enveloppe allouée à la défense aux dépens de celle du Département d'État, de l'aide étrangère et des contributions des États-Unis aux organisations internationales. Des voix s'élèvent pour mettre en garde contre un affaiblissement de la diplomatie américaine. Les précisions, Lionel Gaïma.
Le nouveau budget prévoit une hausse de 54% du budget du Pentagone, une augmentation compensée par des coupes ailleurs, comme 28% du budget du Département d'État et des programmes internationaux. Pour Adotei Akui d'Amnesty International, ces coupes auront un impact dévastateur. Les organisations de la société civile, les gouvernements sont extrêmement préoccupés, non seulement par la réduction ou la suppression des ressources, mais aussi par le vide que laissent les États-Unis en tant que partenaire, source de créativité et voix des droits humains. La bureaucratie du Département d'État est pléthorique et les coupes budgétaires lui seront bénéfiques, estime pour sa part l'ancien diplomate américain James Robert. Il y a suffisamment de possibilités de réorganiser le Département d'État pour en faire un représentant plus efficace et plus effectif du peuple américain, un acteur à l'étranger avec des tâches plus simplifiées pour lesquelles les fonds seront dépensés. Les législateurs n'accepteront pas une forte réduction de fonds de l'aide étrangère et de la diplomatie américaine, prédit George Ingram, ancien fonctionnaire au Congrès, ce que confirme le sénateur républicain Lindsey Graham, qui avertit que la guerre contre le groupe État islamique en pâtirait. Ce que je veux dire que cette commission comprenne, c'est que tous les budgets adoptés avec de coupes claires dans le budget du Département d'État ne nous permettra jamais de gagner cette guerre. En fait, c'est le groupe État islamique qui célébrera. Le moins que l'on puisse dire est que le premier budget du président américain Donald Trump fera l'objet de vigoureux débats au Congrès dans les mois à venir.
Les dirigeants de la commission du renseignement du Sénat ont affirmé hier qu'aucune preuve n'avait été établie sur d'éventuelles écoutes dans la Trump Tower. Cette déclaration fait suite aux accusations du président Donald Trump selon lesquelles l'administration Obama aurait ordonné ses écoutes pendant la campagne présidentielle. Jacques Aristide.
Ce sont le républicain Richard Burr, président de la commission sénatoriale du renseignement, et son adjoint démocrate Mark Warren qui l'écrivent dans un communiqué. D'après eux, compte tenu des informations à leur disposition, il n'y a aucune indication que la Trump Tower a été l'objet d'une surveillance de la part de quelconque élément du gouvernement américain avant ou après l'élection de 2016. Dès mercredi, Devin Nunes, qui lui dirige la commission du renseignement de la Chambre des représentants, avait affirmé ne pas disposer d'éléments accréditant les accusations formulées par Donald Trump sur son compte Twitter le 4 mars dernier. Dans le message, le chef de l'exécutif américain affirmait que Barack Obama avait ordonné sa mise sur écoute, ce qu'a démenti l'ex-président. Le directeur du FBI, James Comey, sera interrogé sur ce sujet lundi prochain par les parlementaires américains.
Les États-Unis ont renouvelé jeudi leur condamnation de l'occupation de la Crimée par la Russie et demandé à ce que cette annexion prenne fin immédiatement, a indiqué le porte-parole du Département d'État. Péninsule stratégique sur la mer Noire, la Crimée a été annexée par la Russie en mars 2014 après une intervention militaire suivie d'un référendum de rattachement le 16 mars qui a été dénoncé comme illégal par Kiev et les Occidentaux. Les États-Unis, a relevé le Département d'État, ne reconnaissent pas ce référendum, pas plus que la tentative d'annexion de la Crimée, ni la violation persistante du droit international. Et puis, des avions de combat israéliens ont attaqué plusieurs cibles en Syrie dans la nuit de jeudi à vendredi. Il s'agit de l'incident le plus sérieux entre les deux pays depuis le début en 2011 du conflit qui ravage la Syrie. Le missile tiré de la Syrie a été intercepté au nord de Jérusalem par le système de défense antimissile Arrow, ont indiqué les médias israéliens. Le prochain journal dans 50 minutes.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.